Septième jour. Nuit. Ou, à résumer les révélations prodigieuses dont on parle ici, le titre devrait être aussi long que le chapitre, ce qui est contraire à l'usage. Nous nous trouvâmes sur le seuil d'une pièce semblable par sa forme aux trois autres pièces aveugles heptagonales où régnait une forte odeur de renfermé et de livres macérés dans l'humidité. La lampe que je tenais haut éclaira d'abord la voûte, puis j'abaissai le bras à droite et à gauche, et la flamme souffla de vagues clartés sur les étagères éloignées le long des murs. Enfin, nous vîmes au centre une table chargée de parchemins et derrière la table, une silhouette assise qui paraissait nous attendre, immobile dans le noir, si toutefois elle était encore vivante. Avant que la lumière n'en illuminât le visage, Guillaume parla. « Bonne et heureuse nuit, vénérable Jorge, » dit-il. « Tu nous attendais. » La lampe, à présent, éclairait le visage du vieux qui nous regardait comme s'il voyait.
« C'est toi, Guillaume de Baskerville ?» demanda-t-il. « Je t'attends depuis cet après-midi avant vêpres, quand je vins m'enfermer ici. Je savais que tu viendrais. »
« Et l'abbé ?» demanda Guillaume. « C'est lui qui s'agite dans l'escalier secret ?» Jorge eut un instant d'hésitation.
« Il est encore vivant ?» demanda-t-il. « Je croyais que l'air lui avait déjà manqué. »
« Avant que nous commencions à parler, » dit Guillaume, « je voudrais le sauver. Toi, tu peux ouvrir de ce côté. »«
Non, » dit Jorge avec lassitude, « je ne le puis plus. Le mécanisme se manœuvre d'en bas en pressant sur la plaque, et ici, en haut, se déclenche un levier qui ouvre une porte là, au fond, derrière cette armoire. »
Et il fit un signe par-dessus son épaule.
« Tu pourrais voir à côté de l'armoire une roue avec des contrepoids qui commande le mécanisme d'en haut. » Mais lorsque d'ici j'ai entendu la roue tourner, signe qu'Abbon était entré en bas, j'ai donné un coup sec à la corde qui soutient les poids, et la corde s'est rompue. À présent, le passage est fermé d'un côté comme de l'autre, et tu ne pourrais pas renouer les fils de ce dispositif. L'abbé est mort.
Pourquoi l'as-tu tué ?
Aujourd'hui, quand il m'a mandé d'urgence, c'était pour me dire que grâce à toi, il avait tout découvert. Il ne savait pas encore ce que j'avais voulu protéger. Il n'a jamais compris exactement quels étaient les trésors et les fins de la bibliothèque. Il m'a demandé de lui expliquer ce qu'il ne savait pas. Il voulait voir ouvrir le Finis Africae. Le groupe des Italiens lui avait demandé de mettre fin à ce qu'ils appelaient le mystère alimenté par moi et par mes prédécesseurs. Ils sont tourmentés par la convoitise de choses nouvelles.
Et toi, tu as dû lui promettre que tu viendrais ici et que tu mettrais fin à ta vie, comme tu avais mis fin à celle des autres, de manière que l'honneur de l'abbaye fût sauf et que personne ne sût rien. Ensuite, tu lui as indiqué le chemin pour venir, plus tard, vérifier. En revanche, tu l'attendais pour le tuer, lui. Tu ne pensais pas qu'il pût entrer par le miroir ?
Non. Abbon est petit de taille. Il n'aurait pas été capable d'arriver tout seul au verset. Je lui ai indiqué ce passage que moi seul connaissais encore. C'est celui que j'ai utilisé moi-même pendant tant d'années, car c'était plus simple dans le noir. Il suffisait d'arriver à la chapelle et puis de suivre les eaux des morts jusqu'au bout du passage.
Ainsi, tu l'as fait venir ici en sachant que tu le tuerais.
Je ne pouvais plus avoir confiance en lui non plus. Il était épouvanté. Il était devenu célèbre à Fossa Nova pour avoir réussi à faire descendre un corps le long d'un escalier à vis. Injuste gloire. Maintenant, il est mort pour n'avoir pas réussi à faire monter le sien.
Tu t'en es servi pendant 40 ans. Quand tu t'es aperçu que tu devenais aveugle et que tu ne pourrais pas continuer à contrôler la bibliothèque, tu as fait élire abbé un homme auquel tu pouvais te fier et tu as fait nommer bibliothécaire d'abord Robert de Bobbio, que tu pouvais instruire selon ton bon plaisir, puis Malachi, qui ne faisait pas un pas sans te consulter. Pendant 40 ans, tu as été le maître de cette abbaye. Voilà ce que le groupe des Italiens avait compris. Voilà ce qu'Alinardo répétait. Mais personne ne lui prêtait attention, parce qu'on le considérait depuis beau temps comme un pauvre fou, n'est-ce pas ? Cependant, tu m'attendais encore. Et tu n'aurais pu bloquer l'entrée du miroir, car le mécanisme est muré. Pourquoi m'attendais-tu ? D'où tenais-tu avec certitude que je serais arrivé ? Guillaume questionnait, mais au ton de sa voix, on comprenait qu'il devinait déjà la réponse et l'attendait comme un prix pour son habileté.
« Dès le premier jour, j'ai compris que tu comprendrais. D'après ta voix, d'après la manière dont tu m'as amené à débattre ce dont je ne voulais pas qu'on parlât. Tu valais mieux que les autres. Tu y serais arrivé de toute façon. Tu sais, il suffit de penser et de reconstruire dans son propre esprit les pensées de l'autre. Et puis j'ai entendu que tu posais des questions aux autres moines, toutes justes. Mais tu ne posais jamais de questions sur la bibliothèque, comme si tu en connaissais désormais tous les secrets. Une nuit, je suis venu frapper à ta cellule, et tu n'étais pas là. Tu étais certainement ici. Deux lampes avaient disparu des cuisines, je l'ai entendu dire par un servant. Et enfin, lorsque Séverin est venu te parler d'un livre, l'autre jour dans le narthex, j'ai eu la certitude que tu étais sur mes propres traces.
Mais tu es parvenu à me soustraire le livre. Tu es allé chez Malachi, qui jusqu'alors n'avait rien compris. Agité par sa jalousie, le sot continuait d'être obsédé par l'idée qu'Adelme lui avait ravi son Béranger adoré, qui désormais voulait de la chair plus jeune que la sienne. Il ne comprenait pas ce que venait faire Venantius dans cette histoire. Et toi, tu lui as encore davantage brouillé les idées. Tu lui as dit que Béranger avait eu un rapport avec Séverin, et qu'en reconnaissance, il lui avait donné un livre du Finis Africae. Je ne sais exactement ce que tu lui as dit, mais Malachi est allé chez Séverin, fou de jalousie, et l'a tué. Et il n'a pas eu le temps de chercher le livre que tu lui avais décrit, parce que le scélérier est arrivé. Est-ce bien ainsi que cela s'est passé ?
Plus ou moins.
Mais toi, tu ne voulais pas que Malachi mourût. Lui, il n'avait probablement jamais jeté un seul coup d'œil au livre du Finis Africae. Il avait une confiance aveugle en toi. Il obéissait à tes interdits. Lui, il se limitait à préparer le soir les herbes pour épouvanter les éventuels curieux. C'est Séverin qui les lui procurait. Voilà pourquoi, ce jour-là, Séverin laissa entrer Malachi dans l'hôpital. C'était sa visite quotidienne pour prélever les herbes fraîches que, par ordre de l'abbé, l'herboriste tenait prêtes chaque jour. Ai-je deviné ?
Tu as deviné. Je ne voulais pas que Malachi mourût. Je lui dis de retrouver le livre à tout prix et de le ramener ici sans l'ouvrir. Je lui dis qu'il avait le pouvoir de 1000 scorpions, mais, pour la première fois, l'insensé voulut prendre une initiative. Je ne le voulais pas mort, c'était un exécuteur fidèle. Et ne me répète pas ce que tu sais, je le sais que tu sais. Je ne veux pas alimenter ton orgueil, tu t'en charges suffisamment toi-même. Je t'ai entendu ce matin dans le scriptorium interroger Banz sur la Coena Cupriani. Tu étais tout près de la vérité. Je ne sais comment tu as découvert le secret du miroir, mais quand j'ai su par l'abbé que tu lui avais mentionné le Finis Africae, j'étais certain qu'en peu de temps tu serais arrivé. C'est ainsi que je t'attendais. Et à présent, que veux-tu ?
Je veux voir, dit Guillaume, le dernier manuscrit du volume relié qui réunit un texte arabe, un syrien et une interprétation ou transcription de la Coena Cupriani. Je veux voir cet exemplaire en grec, établi probablement par un arabe ou un espagnol, que tu as trouvé quand, aidé de Paolo de Rimini, tu as obtenu qu'on t'envoya dans ton pays pour recueillir les plus beaux manuscrits des Apocalypses de Léon et de Castille. Un butin qui t'a rendu célèbre et fait estimer ici dans l'abbaye et t'a permis d'obtenir la place de bibliothécaire alors qu'elle revenait à Alinardo de 10 ans ton aîné. Je veux voir cet exemplaire grec écrit sur le papier de drap, qui alors était très rare et qu'on fabriquait précisément à Silos, près de Burgos, ta patrie. Je veux voir le livre que tu as dérobé là-bas, après l'avoir lu, car tu ne voulais pas que d'autres le lussent, et que tu as caché ici, le protégeant de façon habile, et que tu n'as pas détruit, parce qu'un homme tel que toi ne détruit pas un livre, mais le garde, et veille à ce que personne ne le touche. Je veux voir le deuxième livre de la poétique d'Aristote, celui que tout le monde croyait perdu ou jamais écrit, et dont tu conserves peut-être l'unique exemplaire.
Quel magnifique bibliothécaire tu aurais fait, Guillaume !
Dit Rolleret d'un ton matiné d'admiration et de regret.
Ainsi tu sais vraiment tout. Viens, je crois qu'il y a un tabouret de ton côté de la table. Assieds-toi. Voici ta récompense.
Guillaume s'assit et posa la lampe que je lui avais passée, éclairant par en dessous le visage de Rolleret. Le vieillard prit un volume qu'il avait sur sa table et le lui tendit. Je reconnus la reliure, c'était celui que j'avais ouvert à l'hôpital, le prenant pour un manuscrit arabe.
« Lis donc, alors. Feuillette-le, Guillaume, » dit Rolleret. « Tu as gagné. »
Guillaume regarda le volume, mais ne le toucha pas. Il tira de sa coule une paire de gants, pas les siens, avec la pointe des doigts découverte, mais ceux que portait Séverin quand nous l'avions trouvé mort. Il ouvrit lentement la reliure usée et fragile. Je m'approchai et me penchai sur son épaule. Rolleret, de son ouïe très fine, entendit le léger bruit que je fis. Il dit
« Tu es là, toi aussi, mon garçon. Je te le ferai voir à toi aussi. Après. »
Guillaume parcourut rapidement les premières pages. « C'est un manuscrit arabe sur les dits de quelques folles, d'après le catalogue, » dit-il. « De quoi traite-t-il ? » ?»«
Oh, sotte légende d'infidèle où l'on juge que les folles ont des mots d'esprit si subtils qu'ils en étonnent même leurs prêtres et enthousiasment leurs califes. »
Le second est un manuscrit syriaque, mais d'après le catalogue, il traduit un libelle égyptien d'alchimie. Pourquoi se trouve-t-il donc dans ce recueil ?
C'est un ouvrage égyptien du IIIe siècle de notre ère, dans la ligne de l'ouvrage qui suit, mais moins dangereux. Personne ne prêterait l'oreille aux égarements d'un alchimiste africain. Il attribue la création du monde au rire divin. »
Il leva le visage et récita avec sa prodigieuse mémoire de lecteur, qui depuis maintenant 40 ans se répétait à lui-même les livres lus quand il jouissait encore de sa vue.
« À peine, Dieu rit-il, que naquirent 7 dieux qui gouvernèrent le monde. À peine il éclata de rire qu'apparut la lumière. Au second éclat de rire apparut l'eau. Et au 7e jour de son rire, apparut l'âme. Folie. Y compris les cris qui vient après, d'un des innombrables idiots qui se mirent à gloser la Kohéna. Mais ce n'est pas là ce qui t'intéresse. »
Guillaume avait en effet passé rapidement sur ces pages, et il était arrivé au texte grec. Je vis aussitôt que les feuillets étaient d'une matière différente et plus molle, presque déchirée le premier, avec une partie de la marge rongée, parsemée de taches pâles, comme d'ordinaire le temps et l'humidité en produisent sur d'autres livres. Guillaume lut les premières lignes, d'abord en grec, puis en traduisant en latin et en poursuivant dans cette langue, de façon que moi aussi, je pusse apprendre comment débutait le livre fatal. Dans le livre premier, nous avons traité de la tragédie et de la manière dont, en suscitant pitié et peur, elle produit la purification de tels sentiments. Comme nous l'avions promis, nous traitons maintenant de la comédie, mais aussi de la satire et du mime, et de la manière dont, en suscitant le plaisir du ridicule, elle parvient à la purification de cette passion. De quelle insigne considération est digne une telle passion ? Nous l'avons déjà dit dans le livre sur l'âme, dans la mesure où, seul d'entre tous les animaux, l'homme est capable de rire. Nous définirons donc de quel genre d'action la comédie est imitation, après quoi nous examinerons les manières dont la comédie suscite le rire et ces manières sont les faits et l'élocution. Nous montrerons comment le ridicule des faits naît de l'assimilation du meilleur au pire et vice-versa, de la surprise par la ruse, de l'impossible et de la violation des lois de nature, de l'insignifiant et de l'inconséquent, de l'abaissement des personnages, de l'usage des pantomimes bouffonnes et vulgaires, de la discordance, du choix des choses les moins dignes. Nous montrerons ensuite comment le ridicule de l'élocution naît des équivoques entre des mots semblables pour des choses différentes et différents pour des choses semblables, de la logorée et de la répétition, des jeux de mots, des diminutifs, des erreurs de prononciation et des barbarismes. Guillaume traduisait avec difficulté, cherchant les mots justes, s'arrêtant par moments. Tout en traduisant, il souriait, comme s'il reconnaissait des choses qu'il s'attendait à trouver. Il lut à voix haute la première page, puis il cessa, comme s'il n'était pas intéressé à en savoir davantage, et il feuilleta en hâte les pages suivantes. Mais après quelques feuillets, il rencontra une résistance, car sur la marge latérale supérieure et tout le long de la tranche, les feuillets étaient unis les uns aux autres, comme il arrive lorsque, une fois humidifié et détérioré, la matière du papier forme une sorte de gluten poisseux. Rolleret se rendit compte que le froissement des feuillets tournés avait cessé. Et il exhorta Guillaume. « Allons, lis, feuillette-le. Il est à toi. Tu l'as bien mérité. » Guillaume rit. Il paraissait plutôt amusé. « Alors ce n'est pas vrai que tu me crois aussi subtil que ça, Rolleret. Tu ne le vois pas, mais j'ai des gants. » Avec les doigts empêtrés de la sorte, je ne parviens pas à détacher les feuillets. Je devrais m'exécuter les mains nues, m'humecter les doigts avec ma langue, comme il m'est arrivé de faire ce matin en lisant dans le scriptorium. Alors soudain ce mystère aussi s'est éclairci pour moi, et je devrais continuer à tourner ainsi les feuillets, tant qu'une bonne dose de poison ne serait pas passée dans ma bouche. Je parle du poison que toi, un jour, il y a longtemps de cela, tu as dérobé dans le laboratoire de Séverin, peut-être alors déjà préoccupé pour avoir entendu quelqu'un dans le scriptorium manifester certaines curiosités, soit à propos du Finis Africae, soit au sujet du livre perdu d'Aristote, soit pour l'un et l'autre à la fois. Je crois que tu as gardé longtemps la fiole par devers toi, te réservant d'en faire usage quand tu sentirais un danger. Et tu l'as senti il y a quelques jours, lorsque d'un côté Venantius parvint trop près du thème de ce livre et que de l'autre Béranger, par légèreté, par gloriole, pour impressionner Adelme, se révéla moins secret que tu ne l'espérais. Alors tu es venu ici et tu as préparé ton piège. Juste à temps, car peu de nuits après, Venantius ouvrit le miroir, déroba le livre, le parcourut avec anxiété, avec une voracité quasi physique. Il ne tarda pas à se sentir mal et courut chercher de l'aide aux cuisines, où il mourut. Je me trompe ?
Non. « Continue. »
Le reste est simple. Béranger trouve le corps de Venantius dans les cuisines. Il craint qu'il n'en découle une enquête, car au fond, Venantius était venu de nuit dans l'édifice à la suite de sa première révélation à Adelme. Il ne sait que faire, charge le corps sur ses épaules et le jette dans la jarre de sang, pensant que tout le monde serait convaincu qu'il s'était noyé.
« Et toi, comment sais-tu qu'il en alla ainsi ?»«
Tu le sais, toi aussi. » J'ai vu comment tu as réagi quand on a découvert un linge souillé de sang chez Béranger. Avec ce linge, l'étourdi s'était nettoyé les mains après avoir mis Venantius dans le sang. Mais comme il avait disparu, Béranger ne pouvait qu'avoir disparu avec le livre qui excitait maintenant sa propre curiosité. Et toi, tu t'attendais qu'on le retrouvât quelque part, non point ensanglanté, mais bien empoisonné, le reste est clair. Séverin retrouve le livre, car Béranger était allé d'abord dans l'hôpital pour le lire à l'abri des regards indiscrets. Malaquis tue Séverin à ton instigation, et il meurt à son tour, quand il revient ici pour savoir ce qu'il y avait de tellement interdit dans l'objet qu'il avait fait devenir un assassin. Voilà que nous avons une explication pour tous les cadavres.
Quel idiot ! Qui ?
Moi. À cause d'une phrase d'Alinardo, je m'étais convaincu que la série des crimes suivait le rythme des sept trompettes de l'Apocalypse. La grêle pour Adelme, et il s'agissait d'un suicide. Le sang pour Venantius, et ça avait été une idée bizarre de Béranger. L'eau pour Béranger lui-même, et ça avait été un cas fortuit. La troisième partie du ciel pour Séverin, et Malaquis avait frappé avec la sphère armillaire, parce que c'était la seule chose qu'il avait trouvée sous la main. Enfin, les scorpions pour Malaquis.
Pourquoi as-tu dit que le livre avait la force de 1000 scorpions ?
À cause de toi. Linardo m'avait communiqué son idée, puis j'avais entendu dire par quelqu'un que toi aussi tu l'avais trouvée persuasive. Alors j'ai acquis la conviction qu'un plan divin réglait ces disparitions dont je n'étais pas responsable. Et j'annonçai à Malaki que s'il ne s'était pas gardé d'être curieux, il aurait péri selon le même plan divin, comme de fait cela s'est avéré.
C'est ainsi alors. J'ai fabriqué un schéma faux pour interpréter la stratégie du coupable, et le coupable s'y est conformé. Et c'est précisément ce schéma faux qui m'a mis sur tes traces. À notre époque, tout un chacun est obsédé par le livre de Jean, mais toi, tu me semblais celui qui y méditait le plus, et non tant pour tes spéculations sur l'Antéchrist, mais parce que tu venais du pays qui a produit les plus splendides apocalypses. Un jour, quelqu'un m'a dit que les manuscrits les plus beaux de ce livre, ceux de la bibliothèque, c'était toi qui les avais apportés. Puis un jour, Alinardo divaga sur un mystérieux ennemi qui était allé chercher des livres à Silos. M'intrigua le fait que cet ennemi, selon ses dires, était retourné prématurément dans le royaume des ténèbres. Sur le moment, on pouvait penser qu'il voulait signifier par là sa mort prématurée. En revanche, il faisait allusion à ta cécité. Silos est près de Burgos. Et ce matin, j'ai trouvé dans le catalogue une série d'acquisitions qui concernait toutes les apocalypses hispaniques au cours de la période où tu avais succédé ou où tu allais succéder à Paolo de Rimini. Et dans ce groupe d'acquisitions, il y avait aussi ce livre. Mais je ne pouvais être certain de ma reconstitution jusqu'au moment où j'ai appris que le livre volé était en papier de drap. Alors je me souvins de Silos et je fus sûr de moi. Naturellement, au fur et à mesure que prenait forme l'idée de ce livre et de son pouvoir vénéneux, se délitait l'idée du schéma apocalyptique, et pourtant je ne parvenais pas à comprendre comment le livre et la succession des trompettes conduisaient l'un et l'autre à toi. Et j'ai mieux compris l'histoire du livre justement dans la mesure où, guidé par la succession apocalyptique, j'étais obligé de penser à toi et à tes discussions sur le rire. À telle enseigne que ce soir, quand je ne croyais désormais plus au schéma apocalyptique, j'insistais pour contrôler les écuries, où je m'attendais à la sonnerie de la 6e trompette, et c'est précisément aux écuries, par pur hasard, qu'Atso m'a fourni la clé pour entrer dans le Finis Africae.
« Je ne te suis pas, » dit Rolré. « Tu es fier de me montrer comment, en suivant ta raison, tu es arrivé jusqu'à moi, et cependant, tu me démontres que tu y es arrivé en suivant une raison erronée. Que veux-tu me dire ?»
À toi, rien. Je suis déconcerté, voilà tout. Mais n'importe, je suis ici.
Le Seigneur sonnait les 7 trompettes. Et toi, fût-ce dans ton erreur, tu as entendu un écho confus de ce son.
Ça, tu l'as déjà dit dans ta prédication d'hier soir. Tu cherches à te convaincre que toute cette histoire a procédé d'un dessein divin pour te cacher à toi-même que tu es un assassin.